Merci d'écouter France Culture, il est 8h. Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des milliers de passagers de la compagnie aérienne Aigle Azur bloqués en Algérie et au Mali. Tous ces avions sont cloués au sol depuis hier soir. La société placée en liquidation judiciaire et les 1200 salariés qui attendent d'être fixés sur leur sort, sur une reprise ou non de l'entreprise. Ce sera lundi. Dans ce journal, nous entendrons un porte-parole du syndicat Force Ouvrière.
À la une également, la réforme des retraites avec la clôture hier de la première concertation à Matignon entre les ministres en charge du dossier et les partenaires sociaux.
Au-delà du changement de méthode, quel bilan tiré de ce premier round? Élément d'analyse à suivre avec Annabelle Grenier.
Facebook face à une nouvelle enquête antitrust aux États-Unis.
Une coalition d'États américains dont New York a lancé une vaste enquête sur la gestion des données personnelles de ses utilisateurs et ses pratiques commerciales, notamment en matière de publicité. Nous irons à New York rejoindre Loïc Loury. Nous irons aussi en Turquie où la responsable à Istanbul du principal parti d'opposition au président Erdogan a été condamnée hier à près de 10 ans de prison. Précision à suivre avec Anand Lower.
Et à la fin de cette édition, en écho au grand concours d'éloquence organisé aujourd'hui par la Fondation des Femmes à la Maison de la Radio, notre invitée sera l'avocate pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes, Zoé Royot.
Sur la réforme des retraites, l'exécutif a clos hier le premier round de concertation avec les partenaires sociaux. Une réforme qui prévoit le passage à un système par points pour remplacer les 42 régimes de retraite existants. Le rapport Delevoye préconise l'instauration d'un âge pivot à 64 ans sous peine de décote, alors qu'Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il penchait en direction d'un allongement de la durée de cotisation. Pendant deux jours, le Premier ministre Édouard Philippe a donc entendu les syndicats. Le chef du gouvernement annoncera la semaine prochaine la méthode et le calendrier qu'il compte employer pour parvenir à un projet de réforme. Le Premier ministre qui donc se retrouve avec ce débat citoyen aussi à organiser, Annabelle Grenier.
Tour à tour, ils sont venus exposer leurs arguments, leur expertise et leur position sur cette réforme des retraites. Pas de grande surprise, les partenaires sociaux n'ont fait que répéter ce qu'ils avaient déjà exposé pendant 18 mois au haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Pas de volte-face donc de leur côté. Non, le changement est plutôt venu de l'exécutif qui, depuis la crise des Gilets jaunes, a désormais pris la bonne résolution de ne plus les traiter avec mépris. Renouer le dialogue social pour repartir du bon pied face à un chantier qui s'annonce sensible, technique et compliqué. Tous les partenaires sociaux, bien sûr, ne sont pas unanimes sur les solutions à apporter pour réformer le système de retraite. Chacun, évidemment, défendra sa chapelle, que ce soit les indépendants, les artisans, les agriculteurs, les ouvriers, les cadres, les fonctionnaires ou encore les patrons. Tous ont des revendications, mais il manque encore beaucoup de précisions dans la réforme pour réellement déterminer aujourd'hui qui seront les gagnants et les perdants. Tellement de points à mettre au clair que la méthode qui sera employée par l'exécutif sera cruciale. La grande concertation citoyenne sera également capitale. Quand ce projet de loi sera-t-il fin prêt? Le calendrier devrait être annoncé la semaine prochaine. Rien n'a filtré des intentions d'Édouard Philippe auprès des partenaires sociaux. Non sans une certaine ironie, François Auméry, le président de la CFE-CGC, est le seul à se risquer.
Je peux faire le pronostic que Noël sera passé depuis longtemps quand nous aurons un projet sur la table.
Les précisions d'Annabelle Grelier. Nouvel épisode aujourd'hui dans le bras de fer politique qui se poursuit entre de nombreuses municipalités de Seine-Saint-Denis et l'État. 8 mairies, dont Montreuil, Bondy et Saint-Denis notamment, adressent officiellement une demande d'indemnisation préalable au gouvernement avant le dépôt d'un recours devant le tribunal administratif de Montreuil. Ils dénoncent une rupture d'égalité qui touche leur territoire selon eux. Territoire sous-doté, répètent ces élus, sous-doté en professeurs, en juges et en policiers, Claire Chaudière.
5 ministères recevront la lettre de ces élus de Seine-Saint-Denis en colère. Justice, éducation intérieure, mais aussi Bercy, la cohésion des territoires, plus le Premier ministre. Le principe, demander des comptes à l'État après la publication d'un rapport parlementaire il y a un an pointant la sous-dotation de ce département francilien.
Pourquoi est-ce qu'on a les policiers et les enseignants les plus jeunes et les moins expérimentés?
Sylvine Thomassin est la maire de Bondy.
Pourquoi est-ce qu'il faut 2 mois pour divorcer à Paris quand il faut plus d'un an, parfois jusqu'à 18 mois en Seine-Saint-Denis? On veut mettre l'État face à ces manquements.
Faute de réponse satisfaisante d'ici 2 mois, c'est le tribunal administratif qui sera saisi, poursuit Azzedine Taïbi, le maire de Stein.
C'est parti. Tout à l'heure, j'ai eu un appel de la sous-préfète qui était un petit peu surprise. Bien sûr, il faudra payer.
Le montant de l'indemnisation en jeu devra être évalué par un comité d'experts, mais la volonté est surtout de faire bouger les lignes, explique l'avocat des les municipalités, maître Arié Halimi.
C'est une modalité de recours assez moderne qui permet d'utiliser l'outil judiciaire comme un outil politique, que ce soit le domaine de l'écologie pour l'affaire du siècle ou le domaine des inégalités territoriales.
Inégalités territoriales qui font parallèlement l'objet d'un groupe de travail gouvernemental. Premier résultat attendu cet automne.
Claire Chaudière.
La République En Marche prépare les élections municipales lors de sa première université d'été.
Oui, le mouvement présidentiel se réunit ce week-end à Bordeaux pour ce rendez-vous baptisé Campus des territoires. Justement, ces territoires souvent touchés par la baisse des services publics. La République En Marche attend 3000 personnes pendant ces deux jours rythmés par des débats, des conférences et des ateliers avec un objectif, rassembler ses troupes pour la prochaine échéance électorale. Rosalie Lafarge, ce sont les municipales.
En marche vers les élections, les municipales, c'est dans 6 mois et le mouvement n'a pas l'intention de passer à côté. Mais au sein de l'REM, on le sait, le parti est encore relativement nouveau. Il a grandi vite et il faut maintenant s'attacher à l'implanter localement. D'où l'accent mis sur les territoires. 3 grands thèmes, écouter les territoires, agir pour les territoires et s'engager pour les territoires. Tout le gouvernement ou presque participe, quasiment tous les élus, les cadres du parti et bien sûr les candidats aux municipales sont attendus. La République En Marche a d'ailleurs prévu une série de formations ce week-end pour apprendre aux aspirants maires à faire campagne, à savoir administrer ou gérer des finances locales. Mais au-delà des jolis intitulés, des invités de marque et de l'unité affichés, le mouvement va devoir aussi gérer la grogne pendant ces 2 jours. Les investitures ne font pas que des heureux. Les options retenues par LREM pour les municipales divisent à Lille, Tours, Albi, Lyon, Paris, Annecy ou encore à Bordeaux. Le choix du fief juppéiste pour ce premier campus des territoires peut d'ailleurs paraître risqué à cet égard. La ville est l'une des plus représentatives des tensions qui traversent la majorité, puisque le parti a choisi d'y investir Thomas Cazenave contre l'actuel maire, Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé, proche d'Édouard Philippe et soutenu par le Modem.
Rosalie Lafarge à Bordeaux pour France Culture. À la une de l'actualité aussi ce matin, le sort d'Aigle Azur. Depuis hier soir, tous les appareils de la compagnie aérienne française sont suspendus dans l'attente d'un repreneur d'ici lundi. Air France serait une option. On devrait savoir donc si l'entreprise sera reprise ou liquidée. En attendant, les 1200 salariés de la compagnie donc sont dans l'attente. Ils espèrent, selon Jean Edoux, une reprise. Il est syndicat Force Ouvrière Transport.
Bien savoir-faire, ils sont tout à fait reprenables, les salariés. Ce qu'on souhaite, c'est que bien évidemment, il y ait une reprise. Il nous semble que la cohérence voudrait qu'on reprenne toute l'activité d'entreprise. Ça serait pas une bonne solution qu'il y ait une vente à la découpe et que les uns et les autres viennent faire leur marché, tout simplement parce que, comme on le dit dans le jargon du transport aérien, il n'y aurait que les slots, l'atterrissage et le décollage des avions et la capacité de le faire sur les aéroports qui serait intéressant pour les compagnies aériennes. Non, il y a un véritable marché, il y a une véritable activité du transport aérien qui peut être rentable. Il faut que des entreprises se positionnent. Il y a des noms qui circulent. Nous, on n'a pas à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit une compagnie aérienne sérieuse.
Jean Edoux du syndicat FO Transport répondait à Anne Lorchouin. Des milliers de passagers sont bloqués en Algérie et au Mali. La société placée en liquidation judiciaire est dans l'incapacité de dédommager quiconque.
France Culture, 8h08, suite du journal de Sophie Delpont. En Turquie, le responsable à Istanbul du principal parti d'opposition au président Erdogan a été condamné hier à près de 10 ans de prison.
Oui, condamné pour plusieurs chefs d'accusation, dont propagande terroriste et insulte au chef de l'État. Cette sentence illustre les pressions et les menaces qui pèsent sur les opposants au chef de l'État, régulièrement condamnés par les tribunaux du pays. À Istanbul, les précisions d'Alan Lower.
Une série de messages sur Twitter, dont certains datent d'il y a 7 ans, s'esquivote à Canan Kaftancioglu cette condamnation à 9 ans, 8 mois et 20 jours de prison. Une condamnation pour 5 charges, propagande terroriste, insulte au chef de l'État, insulte à un fonctionnaire, insulte à la République de Turquie et incitation à la haine. Canan Kaftancioglu est ressorti libre du palais de justice, mais la cour, invoquant l'absence de regret de l'accusé, lui a refusé toute réduction de peine. Si la sentence est confirmée en appel, d'ici quelques mois, l'opposante entrera en prison. Ça fait plus d'un an et demi que cette femme de 47 ans dirige la section stambouliote du plus grand parti d'opposition turc, le CHP social-démocrate. Mais c'est vraiment depuis la campagne pour les dernières municipales et la victoire de l'opposition à Istanbul que Canan Kaftancioglu est dans le viseur du pouvoir et de la justice sous ses ordres. Le dirigeant du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a d'ailleurs vu dans cette condamnation une façon de punir l'une des principales architectes de la défaite du pouvoir dans la plus grande ville turque. Pour Recep Tayyip Erdogan, la perte d'Istanbul Istanbul reste avant tout une humiliation qui a sérieusement écorché l'image d'invincibilité dont il se prévalait en Turquie et à l'étranger. Juste avant le délibéré, lorsque le président du tribunal lui a demandé ses derniers mots, Canan Kaftancıoğlu n'a pas manqué de le rappeler. « Quelle que soit votre décision, je ne renoncerai jamais à mes opinions et à mes paroles parce que notre saison a commencé, il a perdu et nous avons gagné. »
Anandauer à Istanbul pour France Culture. À l'instant, Téhéran a mis en route des centrifugeuses avancées selon un communiqué officiel sur l'uranium enrichi. L'Iran qui annonce la troisième phase de son désengagement progressif de l'accord nucléaire de 2015. Hier, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé qu'il doit rencontrer de hauts fonctionnaires hauts responsables iraniens en Iran ce week-end. Pendant ce temps, les États-Unis ont lancé une guerre silencieuse pour traquer les pétroliers iraniens qui transporte clandestinement du pétrole pour le vendre à l'étranger, Christian Chéneau.
Loin des caméras de télévision, c'est en mer que le bras de fer entre Américains et Iraniens se joue, et plus précisément en Méditerranée et dans les eaux du Golfe Persique. Pour Washington, la République islamique ne doit plus exporter une seule goutte de son pétrole. L'administration de Trump estime qu'une fois à genoux financièrement, l'Iran devra négocier en position de faiblesse. Les États-Unis ont donc lancé une chasse aux pétroliers qui transportent le brut iranien de façon clandestine. Ces filières de contournement de l'embargo ont été mises en place par les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui maquillent l'origine du pétrole, falsifient les documents des tankers et dissimulent les positions des navires. Selon Brian Hook, le diplomate qui suit le dossier iranien à la Maison-Blanche et qui affirme que ces cargaisons clandestines ont rapporté un demi-milliard de dollars à l'Iran. Dans cette guerre invisible, les États-Unis ont promis une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information permettant de bloquer les exportations de brut iranien. Le Financial Times a même révélé que Brian Hook avait contacté directement par courriel le capitaine d'un tanker pour lui offrir plusieurs millions de dollars s'il déroutait son navire.
Christian Chéneau, 7 pays amazoniens ont signé hier un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale au monde. Cet accord prévoit une surveillance par satellite et une intervention coordonnée en cas de sinistre, en réponse aux récents incendies qui ont ravagé des milliers de kilomètres carrés de forêt. Parmi les signataires de cet accord, la Colombie, le Brésil aussi. Le président Jair Bolsonaro a donc participé par visioconférence à ce sommet. Le président brésilien qui a déclaré que ce pacte constituait une réaffirmation de la souveraineté de chacun des pays amazoniens. À Wall Street, l'action du géant Facebook dévisse. Un décrochage après l'annonce d'une vaste enquête antitrust lancée par une coalition d'États américains. Selon la procureure de New York qui doit diriger la procédure, il s'agit de déterminer si le réseau social a étouffé la concurrence et fait courir un risque à ses utilisateurs. Facebook, décidément, n'en a pas terminé avec la justice. À New York, Loïc Loury.
New York, Colorado, Nebraska ou Tennessee, 7 États américains, sans compter la capitale fédérale, unissent leurs forces pour s'attaquer aux géants d'Internet. Même la plus grande plateforme au monde doit respecter la loi et les consommateurs, affirme Laetitia James, procureure générale de New York, en charge de coordonner les efforts. L'enquête se concentrera donc, affirme-t-elle, sur la position écrasante de Facebook parmi quelques géants sur Internet et les réseaux sociaux et sur la conduite potentiellement anticoncurrentielle qui en résulte. Les données personnelles des utilisateurs ont-elles été bradées? La qualité du service a-t-elle diminué pendant que le prix des publicités augmentait? Ce sont ces questions qui seront passées au crible au cours des prochains mois. Pour Facebook, les ennuis ne font donc que commencer. La compagnie de Mark Zuckerberg, cet été, a déjà été condamnée à une amende record de 5 milliards de dollars pour manquement à la protection des données de ses utilisateurs. L'entreprise, par ailleurs, est aussi sous le coup, comme Google, d'une enquête des autorités fédérales. Facebook n'a donc pas fini d'être inquiété, d'autant plus que cette nouvelle procédure, lancée par une coalition d'États, est transpartisane. Les géants de la tech, avec leur main mise sur les communications ou le commerce, ont visiblement réussi à liguer tout le monde contre eux.
Loïc Loury à New York pour France Culture. On atteint désormais 43 morts aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Alors que les secours tentent de s'organiser, les autorités craignent un bilan humain épouvantable. L'ouragan avait ravagé 60% du territoire. 70 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence selon les Nations Unies. L'échec pour l'agence spatiale indienne qui annonçait cette nuit avoir perdu le contact avec la sonde qu'elle tentait de faire atterrir sur la Lune. La liaison a été interrompue alors que la sonde entamait l'avant-dernière phase de sa descente amorcée hier soir. La météo, un soleil dominant sur la moitié sud aujourd'hui, des averses le long d'une diagonale qui s'étend des Charentes-Maritimes jusqu'au quart nord-est, un temps alternant nuages et éclaircies ce matin partout ailleurs. Les températures sont comprises entre 14 et 24 degrés ce matin, avec 14 degrés à Amiens, 15 à Strasbourg, 16 à Paris, 19 à Lyon, jusqu'à 24 degrés maximum ce matin à Nice. Même tendance cet après-midi où les températures s'échelonneront entre 16 et 25 degrés du nord au sud.